Chapitre 10. Il était engourdi lorsqu'ils franchirent la douane, et c'est Molly qui répondit pratiquement pour eux deux. Malcolm était resté à bord du Garvey. Pour zone libre, les formalités de douane consistaient essentiellement à prouver votre crédit. La première chose qu'il vit, lorsqu'ils eurent gagné la surface intérieure du fuseau, fut un établissement de la chaîne de café Beautiful Girl. « Bienvenue rue Jules Verne, » dit Molly. « Si t'as des problèmes pour marcher, t'as qu'à regarder tes pieds. La perspective te joue des tours en vache, quand t'y es pas habitué. » Il se trouvait dans une large rue qui semblait constituer le plancher d'une faille ou d'un canyon profond, et dont chaque extrémité était habilement dissimulée par les angles subtils des boutiques et des bâtiments qui en formaient les parois. La lumière ici filtrait au travers de masses de végétation vert vif, cascadant des gradins et des balcons qui s'élevaient au-dessus d'eux. Le soleil. Il y avait un trait éclatant de blanc quelque part au-dessus de leur tête, trop éblouissant, et le bleu enregistré d'un ciel de canne. Ils savaient que la lumière solaire était pompée à l'intérieur via un système Lado-Akesson dont l'armature de 2 mm courait sur toute la longueur du fuseau, générant toute une librairie d'effets de ciel qui se succédaient par rotation. Ils savaient que si le ciel était éteint, ils pourraient apercevoir par-delà l'armature de lumière les contours de lacs, les toits de casinos, d'autres rues. Mais cela n'avait aucun sens pour son corps. « Bon Dieu, » fit-il, « j'aime encore moins ça que le sas. On s'y fait. » J'ai été ici garde du corps d'un flambeur durant un mois. Envie d'aller quelque part, de m'allonger. Dac, j'ai nos clés. Elle lui effleura l'épaule. Qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure là-haut, mec? Tu nous as fait un très plat? Il hocha la tête. Je sais pas. Pas encore, attends. Dac, on prend un taxi ou quelque chose? Elle lui prit la main et le guida dans la rue Jules Verne. Ils passèrent devant une vitrine, exposant les dernières fourrures de Paris. « Incroyable » fit-il en levant encore la tête. « Mais non, » rétorqua-t-elle, croyant qu'il parlait des fourrures. « Il les développe sur une base de collagène, mais c'est toujours de l'ADN de vison. Rien de renversant. Ce n'est jamais qu'un gros tube dans lequel il balance tout un tas de trucs, » dit Molly. « Des touristes, des macs, n'importe quoi. Ils ont installé un filtre à monnaie à maille fine, histoire de garantir que le fric reste quand les gens redescendent par le puits. Armitage leur avait réservé une chambre dans un établissement baptisé l'Intercontinental. Façade, falaise de verre inclinée, qui dévalait pour disparaître dans la brume froide et le bruit des rapides. Caise gagna leur balcon pour contempler les évolutions d'un trio d'adolescents bronzés, des Français, qui survolaient la cascade en deltaplane. Triangle de nylon, claquant aux couleurs primaires. L'un d'eux oscilla, vira, et Caise aperçut en un éclair un casque à ras de cheveux bruns, des seins brunis, les dents blanches d'un large sourire. L'air ici embaumait les eaux vives et les fleurs. « Ouais, » fit-il, « un paquet de fric. » Elle s'appuya près de lui sur la balustrade, les mains ballantes et détendues. « Mouais, on devait fatalement s'y pointer un jour. » Soit ici, soit quelque part en Europe. « Qui ça, on ?»« Personne, » dit-elle, haussant involontairement les épaules. « Tu disais que tu voulais te pieuter, dormir. Je dormirais bien, moi aussi. »« Ouais, » fit Caise, en se massant les pommettes du plein de la main. « Ouais, c'est un sacré coin. » Les trois bandeaux du dispositif Lado-Akesson avaient mitonné une abstraite imitation de quelques crépuscules aux Bermudes, rayé de filaments de nuages enregistrés. « Ouais, » fit-il, « dormir. » Le sommeil ne voulait pas venir. Lorsqu'il vint, ce fut pour apporter des rêves qui étaient comme autant de fragments de souvenirs soigneusement montés. Il se réveillait sans cesse. Molly blottit près de lui et entendait l'eau, les voix qui entraient par les portes-fenêtres ouvertes du balcon, le rire d'une femme en provenance des appartements en gradins sur la pente en face. La mort de Dean revenait tout le temps comme une fausse carte, même s'il se répétait que ça n'avait pas pu être lui, qu'en fait, même, ça ne s'était pas réellement produit. Quelqu'un lui avait dit un jour que la quantité de sang dans un corps humain représentait en gros l'équivalent d'une caisse de bière. Chaque fois que l'image de son crâne fracassé heurtait le mur du fond du bureau, Case devenait conscient de la présence d'une autre pensée, plus ténébreuse, dissimulée et qui roulait au loin, plongeant tel un poisson, juste hors de portée. Linda. Dean. Du sang sur le mur du bureau de l'importateur. Linda. Une odeur de chair carbonisée dans l'ombre des dômes de Chiba. Molly qui lui tendait un sachet de gingembre. Le plastique recouvert d'une pellicule de sang. Dean l'avait fait tuer. Muet d'hiver. Il imaginait un petit micro qui chuchotait à l'oreille de l'épave d'un homme nommé Corto. Les mots qui coulaient comme un fleuve. La plate personnalité de substitution baptisée Armitage, s'agglomérant avec lenteur dans quelque obscure salle d'hôpital. La réplique de Dean avait dit qu'il travaillait à partir des faits donnés, qu'il tirait parti des situations existantes. Mais supposons que Dean, le véritable Dean, ait ordonné de faire tuer Linda sur les ordres de Muet d'hiver. Case tâtonna dans le noir à la recherche des cigarettes et du briquet de Molly. Il n'y avait aucune raison de soupçonner Dean, se dit-il en allumant sa clope. Aucune. Muet d'hiver pouvait constituer une sorte de personnalité à l'intérieur d'une coquille. Quelle forme subtile pouvait prendre la manipulation? Il écrasa la Ye et Wan dans le cendrier au chevet du lit après la troisième bouffée, s'écarta de Molly en roulant sur lui-même et essaya de dormir. Le rêve, le souvenir se dévidait avec la monotonie d'une bande de Simstim non montée. Il avait passé un mois, l'été de ses 15 ans, dans un hôtel à la semaine au 4e étage, avec une fille du nom de Marlène. L'ascenseur n'avait pas dû marcher depuis 10 ans. Dans le coin cuisine, les cafards grouillaient sur la faïence grisâtre de l'évier bouché, sitôt que vous allumiez un interrupteur. Il dormait avec Marlène sur un matelas rayé sans drap. Il n'avait pas remarqué la première guêpe, lorsqu'elle avait commencé à bâtir son nid gris, fin comme du papier, sur la peinture cloquée de l'encadrement de la fenêtre. Mais bientôt le nid était devenu un amas de fibres gros comme le poing, avec les insectes qui se bousculaient pour débouler dans la ruelle en dessous, comme autant d'hélicos miniatures, bourdonnant autour des poubelles pleines d'ordures. Ils s'étaient descendus chacun une dizaine de bières l'après-midi. Une guêpe avait piqué Marlène. « Tue-moi ces saloperies !» lui dit-elle. Les yeux voilés par la rage et la touffeur de la chambre, brûlaient. Ivre, Case alla fouiner dans la penderie moisie pour pêcher le dragon de Rollo. Rollo était l'ancien, et Case le soupçonnait alors, toujours l'épisodique petit ami de Marlène, un énorme motard de Frisco, avec un éclair blond teint dans ses cheveux noirs en brosse. Le dragon était un lance-flamme de Frisco, un truc dans le genre grosse lampe de torche à tête inclinée. Case vérifia les batteries, le secoua pour s'assurer qu'il restait encore assez d'essence, et gagna la fenêtre ouverte. Le nid se mit à bourdonner. L'air dans la conurbe était calme, immobile. Une guêpe jaillit du nid pour tourner autour de la tête de Case. Case pressa le bouton d'allumage, compta jusqu'à 3 et appuya sur la détente. L'essence, pompée à 7 bars, fut pulvérisée le long du filament chauffé à blanc. Une langue de feu, pâle, longue de 5 mètres, le nid qui se ratatine dégringole. De l'autre côté de la rue, quelqu'un poussa un viva. « Merde !» fit dans son dos Marlène en se balançant. « Connard, tu les as pas cramés? Tu l'as juste décroché? Elles vont remonter et nous tuer !» Sa voix lui tapait sur les nerfs. Il l'imaginait englouti dans les flammes, ses cheveux décolorés, crépitant d'un beau vert. Descendu dans le passage, le dragon à la main, il approcha du nid noirci. Il s'était ouvert. Des guêpes brûlées se tortillaient et tressautaient sur l'asphalte. Il vit la chose qu'avait dissimulée la coquille de papier gris. L'horreur. La spirale de l'usine à naissance. Les terrasses étageaient des alvéoles d'éclosion. Le mouvement incessant des mâchoires des larves aveugles. La progression des différents stades. De l'œuf à la larve, à la nymphe, à la guêpe. Dans son esprit se déroulait une sorte de film accéléré, révélant la chose comme l'équivalent biologique d'une mitrailleuse. Hideux dans sa perfection. Étranger. Il appuya sur la détente, oubliant le bouton d'allumage, et l'essence se répandit en sifflant sur la masse grouillante et gonflée à ses pieds. Quand il pressa enfin l'allumage, l'essence détonna avec un bruit sourd, lui emportant un sourcil. 4 étages au-dessus, par la fenêtre ouverte, il entendit le rire de Marlène. Il s'éveilla avec une impression de lumière qui décroît, mais la pièce était plongée dans le noir. Image rémanente, phosphène sur la rétine. Dehors, le ciel trahissait les prémices d'une aube enregistrée. On n'entendait plus de voix, rien que le bruit de l'eau qui cascadait très loin au pied de l'intercontinental. Dans son rêve, juste avant qu'il n'arrose d'essence le nid, il avait vu le sigle TA de la Tessier H-Pool nettement estampé sur son flanc, comme moulé par les guêpes elles-mêmes. Molly insista pour le badigeonner de crème bronzante, en expliquant que sa pâleur connerbe risquait par trop d'attirer l'attention. « Bon Dieu !» fit-il, en se contemplant tout nu devant la glace. « Tu trouves que ça paraît naturel ?» Agenouillée à côté de lui, elle lui finit le reste du tube sur la cheville gauche. « Nan, mais ça donne l'impression que tu te préoccupes au moins de faire comme si. Là, j'en ai pas assez pour te terminer le pied. » Elle se leva et jeta le tube vide dans une grande corbeille en osier. Rien dans la chambre ne donnait l'impression d'avoir été fabriqué à la machine ou produit à partir de matières synthétiques. Très coûteux, Kez le savait. Mais c'était un style qui avait toujours eu le don de l'irriter. La mousse expansée du lit gigantesque était teintée pour ressembler à du sable. L'ameublement regorgeait de bois pâle et de tissus faits main. « Et toi alors ? » demanda-t-il. « Tu vas te teindre en marron ? T'as pas exactement l'air d'avoir passé ton temps à prendre des bains de soleil. » Elle portait pantalon bouffant de soie noire et espadrille assortie. « Je suis exotique. J'ai aussi un grand chapeau de paille pour renforcer l'effet. Toi, vu que t'as juste qu'à ressembler à un brave pigeon monté se faire plumer, le bronzage instantané est parfait. » Kez considéra morose son pied blafard, puis se contempla dans la glace. « Seigneur, tu permets que je m'habille maintenant ?» Il regarda le lit et se mit à renfiler son jean. « Bien dormi ? Pas remarqué de lumière ? T'as rêvé, remarqua-t-elle. » Ils prirent le petit-déjeuner sur le toit de l'hôtel, une espèce de prairie piquetée de parasols à rayures et de ce qui, pour Kez, parut une incroyable quantité d'arbres. Il lui conta sa tentative pour craquer l'IA de Berne. Tout le problème des écoutes semblait désormais devenu académique. Si Armitage les espionnait, il devrait le faire via muet d'hiver. « Et c'était réel ?» lui demanda-t-elle, la bouche pleine de croissants au jambon. « Comme la Simsteam ?» Il dit que oui. « Aussi réel que tout ça, » ajouta-t-il, en embrassant le paysage. « Plus, peut-être. » Les arbres étaient petits, torses, impossiblement âgés. Le résultat du génie génétique et de manipulation chimique. Kez aurait eu bien du mal à distinguer un pin d'un chêne. Mais son esprit de gamin des rues lui disait qu'ils étaient trop bien léchés. Manifestement trop arbres pour être honnêtes. Entre ceux-ci, sur les pentes douces et trop habilement irrégulières de gazon vert et doux, les parasols de couleurs vives protégeait les clients de l'hôtel de l'éclat perpétuel du soleil de l'ado à Kesson. Des éclats de français jaillis d'une table proche attirèrent son attention. Les adolescents dorés qu'il avait vus planer au-dessus de la rivière la veille au soir. Il voyait à présent que leur bronzage était irrégulier, effet de pochoir provoqué par une amplification sélective de la production de mélanine. Teintes multiples, superposées en motifs rectilignes, pour souligner et renforcer la musculature, les petits seins durs de la fille, le poing d'un garçon posé sur l'émail blanc de la table. Ils évoquaient pour Kez des machines bâties pour la course. À son avis, ils auraient mérité d'arborer les autocollants de leurs coiffeurs, du tailleur de leurs pantalons de coutil blanc, des artisans qui avaient conçu leurs sandales de cuir et leurs bijoux tout simples. Derrière eux, à une autre table, trois japonaises en robe sac attendaient leur sarariman de mari, le visage ovale couvert d'échymoses artificielles. C'était, ils le savaient, une mode extrêmement traditionnelle, un style que, même à Chiba, il avait rarement eu l'occasion de voir. « C'est quoi cette odeur ?» demanda-t-il à Molly en fronçant le nez. « L'herbe. Elle sent comme ça quand on vient de la tondre. » Armitage et Riviera arrivèrent comme ils finissaient leur café. Armitage en veste kaki impeccable, comme s'il venait tout juste de découdre ses insignes de régiment. Riviera, en tenue de crépon ample, suggérant perversement le bagne. « Molly, mon chou !» dit Riviera, avant presque de s'être installé sur une chaise. « Va falloir me refiler encore de mon médicament. Je suis à plat. » « Peter, dit-elle, et si je n'en faisais rien ?» Elle sourit sans découvrir les dents. « Oh, mais si !» dit Riviera, dont le regard passait d'elle à Armitage. « Donnez-le-lui, dit ce dernier. » « Ça te manque, pas vrai ?» Elle sortit d'une poche intérieure un paquet plat, emballé de papier, qu'elle lança par-dessus la table. Riviera le rattrapa au vol. « C'est qu'il pourrait se démolir avec ça, » dit-elle à Armitage. « J'ai une audition cet après-midi, » expliqua Riviera. « J'aurais besoin d'être au mieux de ma forme. » Il renversa le paquet dans sa paume retournée et sourit. Un essaim de petits insectes scintillant en jaillit, s'évanouit. Il fit tomber le paquet dans la poche de son blouson de crêpe. « Vous avez gagné vous-même une audition, Kez, cet après-midi, » annonça Armitage. « Sur ce remorqueur, je veux que vous filiez à la boutique d'équipement, vous faire tailler une combinaison spatiale, vous la passer et vous embarquer. Vous avez à peu près 3 heures. » « Comment se fait-il qu'on se trimballe dans une poubelle quand vous deux vous prenez un taxi de la Jalle ?» demanda Kez, en évitant délibérément les yeux de l'homme. C'est Sion qui nous l'a suggéré. Bonne couverture pour nos déplacements. J'ai bien sûr un vaisseau plus gros, prêt à décoller, mais le remorqueur apporte une touche sympa. Et moi, demanda Molly, j'ai des corvées aujourd'hui? Je veux que tu m'escalades l'extrémité jusqu'à l'axe, histoire de t'entraîner en gravité zéro. Demain, peut-être, tu pourras tenter l'autre direction. « Lumiérante, songea Kez. C'est pour bientôt ?» demanda Kez en affrontant le regard pâle. « Bientôt, dit Armitage. Vous relâchez pas, Kez. »« Mac, tu te démerdes un pec !» dit Maël Koum, aidant Kez à se sortir du scaphandre Sagno. « Aérol, dis que tu te démerdes un pec !» Aérol l'avait attendu à l'un des docks de jeu à l'extrémité du fuseau, près de l'axe en impesanteur. Pour l'atteindre, Kez était descendu en ascenseur jusqu'à la coque pour prendre un petit train à induction. À mesure que décroissait le diamètre du fuseau, la gravité diminuait. Quelque part au-dessus de lui, avait-il décidé, devaient se trouver les montagnes qu'escaladait Molly, l'anneau du vélodrome, les catapultes de lancement de deltaplane et de micro-légers miniatures. Aérol l'avait transbordé jusqu'au Marcus Gravet dans un scooter à châssis nu propulsé par un moteur chimique. « Il y a 2 heures, dit Maël Koum, j'ai pris un colis de marchandises de Babylone pour Toué. Un gentil japonais d'un yacht, très chouette le yacht. » Libéré de son scaphandre, Kess se traîna pesamment jusqu'à l'Osaka et se glissa tant bien que mal dans le harnais de la toile. « Eh bien, voyons voir ça. » Maël Koum lui présenta une masse blanche de mousse, légèrement plus petite que la tête de Kez. Puis il puisa dans la poche revolver de son short usé un canif à manche de nacre au bout d'une lanière de nylon vert qu'il ouvrit pour fendre avec soin le plastique. Il en sortit un objet rectangulaire qu'il passa à Kez. « C'est une pièce de revolver, Mac ?»« Non, dit Kez en retournant l'objet. » Mais c'est une arme, un virus. « Pas de ça sur mon remorqueur, Mac !» déclara avec fermeté Maël Koum, la main déjà tendue vers la cassette d'acier. Un programme virus. Tu risques pas de le choper. Il peut même pas rentrer dans ton logiciel. Il faut que je l'interface par la console, avant qu'il puisse travailler sur quoi que ce soit. Eh bien, l'autre Mac japonais, il dit que Stosaka te raconte quand tu veux tout ce que tu veux savoir. Ça va. Bon, tu me laisses bosser dessus, Dak ? Malcolm décolla pour aller dériver de l'autre côté de la console de pilotage et bricoler avec son pistolet à calfaté. Kaze détourna les yeux en hâte des efflorescences gélatineuses de rubans d'étanchéité transparent. Sans bien savoir pourquoi, il sentait qu'elle faisait remonter en lui la nausée du sas. « C'est quoi ce truc ? » demanda-t-il à Osaka. « Le paquet pour moi ? Un transfert de données depuis la Bocris System GmbH Francfort. Indique sous transmission codée que le contenu de l'expédition est un programme de pénétration Quang Expert Type 11. Bocris ajoute plus loin que l'interface avec l'Ono Sendai Cyberspace 7 est entièrement compatible et autorise des capacités de pénétration optimales, en particulier à l'égard des systèmes militaires existants. Et pour une IA, des systèmes militaires existants et des intelligences artificielles. Nom de Dieu, comment l'appelles-tu déjà ? Quang Expert Type 11. Chinois ? Oui. Arrêt. Kaze fixa la cassette de virus sur le flanc de l'Osaka avec un bout de ruban argenté. Lui revenait en mémoire l'histoire de Molly lors de son séjour à Macao. Armitage avait traversé la frontière pour rentrer à Zhongshan. « Marche !» lança-t-il, changeant d'avis. « Question. Qui détient Bocris ? Les gens de Francfort ?»« Délai de transmission satellite, » annonça le Osaka. « Code là. Code commercial standard. Effectué. » Il pianota sur l'Ono Sendai. « Rheingold Scientifique AG, Berne, recommence. Qui détient Rheingold ?» Il fallut grimper 3 échelons encore, avant d'atteindre Tessier Ashpool. « Dixie, » fit-il en se branchant. « Que sais-tu des programmes virus chinois ?»« Pas grand-chose. »« Jamais entendu parler d'un système expert comme le Quang type 11 ?»« Non. » Soupir de Kaze. « Eh bien, je me suis récupéré un programme convivial de brise-glace chinois sur cassette unipassage. Quelqu'un à Francfort dit qu'il peut craquer une IA. »« Possible. Certain, s'il est militaire. »« On a tout l'air. » « Écoute, 10, et fais-moi profiter de ton expérience. Dak, Armitage semble prêt à lancer une passe sur une IA qui appartient à la Tessier Ashpool. L'unité centrale est située à Berne, mais elle est reliée à une autre à Rio. Laquelle est justement celle qui t'a rétamé la première fois. Et il semblerait que la liaison s'établisse via Lumiérante, la base opérationnelle de la TA, tout au bout du fuseau. Or voilà que nous sommes censés nous frayer un passage à l'intérieur avec ce brise-glace chinois. Ce qui veut dire que, si Muet d'Hiver est derrière toute cette combine, c'est lui qui paye pour cramer le truc. Il se crame lui-même, et quelque chose qui se baptise Muet d'Hiver est en train de chercher à me prendre par mon bon côté, voire me pousser à faire trahir Armitage. À quoi ça rime ? Le motif, dit le construct. Le vrai problème, c'est le motif, avec une IA. Pas humaine, tu vois. Bah ouais, ça c'est évident. Pas du tout. Je veux dire, elle n'a vraiment rien d'humain. Et tu n'as pas de prise sur elle, moi non plus. Je ne suis pas humain, moi. Mais je réagis comme un homme, vu. Attends une minute, dit Kaze. Es-tu sensible, oui ou non ? Eh bien, c'est tout comme, gamin. Mais je ne suis jamais pourtant qu'un paquet de mémoire morte. « Voilà encore une de ces... questions philosophiques, je suppose. » Kaze sentit de nouveau l'horrible sensation de rire lui crépiter le long de l'échine. « Mais je ne suis pas du genre à t'écrire des poèmes, si tu vois ce que je veux dire. Ton IA, elle pourrait aussi bien le faire. Mais elle n'est en rien humaine. Alors, tu supposes qu'on peut se fier à ses motifs ? Elle est son propre maître ? Citoyenneté suisse ? Mais la TA détient le logiciel de base et l'unité centrale. « En voilà une bonne, » dit le construct. « Imagine, Je possède ton cerveau et tout ce que tu sais. Mais tes pensées ont la citoyenneté suisse. Évident. L'en a de la veine, tiens, ton IA. Alors, elle serait donc prête à se cramer elle-même ? Kaze s'était mis à pianoter nerveusement sur la console au hasard. La matrice se brouilla, redevint nette, et il aperçut alors l'ensemble de sphères roses représentant un complexe sidérurgique dans le Sikkim. L'autonomie, voilà le croque-mitaine pour autant que ton IA soit concerné. Mon opinion, Kaze, est que tu rentres là-dedans pour trancher les chaînes qui empêchent ce joli bébé de faire le malin. Et je ne vois pas comment tu pourrais distinguer, disons, entre un mouvement effectué par la compagnie mère et un mouvement réalisé par l'IA de son propre chef. Si bien que c'est peut-être de là que vient la confusion. À nouveau ce non-rire. Écoute, ces trucs, ils peuvent bosser vraiment dur, se répercuter le temps pour écrire des livres de cuisine ou je ne sais quoi. Mais à la minute, que dis-je ? La nanoseconde où celle-ci commence à entrevoir le moyen de faire la maligne, Turing l'effacera. Tu sais quoi ? Personne, absolument personne ne se fie à ces saloperies. Toutes les IA construites depuis le début possèdent, câblées d'origine, un pistolet électromagnétique braqué sur leur front. Kaze fixait les sphères roses du Sikkim. D'accord, dit-il enfin, j'insère ce virus. Je veux que tu balaies son accès d'instruction et me dises ce que t'en penses. La vague impression d'une présence en train de vous lire par-dessus l'épaule disparut quelques secondes puis revint. Bordel de merde, Kaze. C'est un virus lent. Lui faut dans les 6 heures durée approximative pour craquer une cible militaire. Ou une IA, il soupira. On peut le lancer ? Bien sûr, dit le construct, à moins que tu n'aies une peur morbide de la mort. Il y a des moments, tu te répètes, mec. C'est ma nature. Molly dormait lorsqu'il regagna l'intercontinental. Il s'assit sur le balcon et regarda un micro léger aux ailes de polymère arc-en-ciel grimper le long de la courbure de zone libre. Ombre triangulaire, glissant au-dessus des prairies et des toits, jusqu'à ce qu'il ait disparu derrière une bande du système Lado-Akesson. J'ai envie de m'éclater, lança-t-il à l'artifice bleu du ciel. J'ai vraiment envie de me défoncer un bon coup, tu sais. Un pancréas qui déconne, des prises dans le foie, de petits sacs de merde qui fondent, rien à secouer, j'ai envie de m'éclater. Il ressortit sans éveiller Molly, crut-il. Il n'était jamais certain, à cause des vers. Balayant sa tension d'un haussement d'épaule, il prit l'ascenseur. Il monta avec une Italienne vêtue de blanc immaculé, le nez et les pommettes enduits d'un produit noir et non réfléchissant. Ses chaussures de nylon blanc étaient munies de crampons d'acier. L'objet, d'aspect luxueux dans sa main, évoquait le croisement entre un avion miniature et un appareil orthopédique. Manifestement prête pour une compétition quelconque, mais Kaze ignorait laquelle. Sur la prairie du toit, il se fraya un passage dans la forêt d'arbres et de parasols jusqu'à ce qu'il découvre une piscine. Cornu, luisant sur le carrelage turquoise. Il alla se tapir dans l'ombre d'une marquise et pressa sa carte mémoire contre un plateau de verre fumé. « Du sushi, dit-il, ce que vous avez. » 10 minutes plus tard, un serveur chinois plein d'enthousiasme arrivait avec sa commande. Il mâchonna son ton cru accompagné de riz en regardant bronzer les gens. « Bon Dieu, dit-il à son assiette de thon. Il y a de quoi devenir dingue. M'en parle pas, dit quelqu'un. Je le sais déjà. T'es un gangster, hein ? Il la regarda en clignant de l'œil à contre-jour. Jeune corps élancé, bronzage par renforcement de la mélanine, mais pas dans le style parisien. Elle s'accroupit à côté de sa chaise, ruisselant d'eau sur le carrelage. Cat, se présenta-t-elle. Lupus, dit-il après une pause. Quel genre de nom est-ce là ? « Grec, t'es vraiment un gangster ?» L'induction de mélanine avait empêché la formation de taches de rousseur. « Je suis un drogué, Kate. »« Quel genre ?»« Stimulant. »« Les stimulants du système nerveux central. »« Des stimulants extrêmement puissants. »« Eh bien, t'en aurais pas, là ?» Elle se pencha plus près de lui. Des gouttes d'eau chlorée lui tombèrent sur la jambe du pantalon. « Non, c'est justement mon problème, Kate. Tu sais vraiment pas où on pourrait en dégoter ?» Kate se balança sur ses talons bronzés et lécha une mèche de cheveux châtain foncé qui s'était collée près de sa bouche. « Tes préférences ? Ni coque ni en fait, mais un truc qui me fasse monter sec. Et allons donc, songea-t-il mélancolique, se forçant à lui sourire. « Bêta-phénéthylamine, dit-elle, sans problème, mais tu le mets sur ta carte. » « Tu déconnes, dit le partenaire en compagnon de chambre de Kate, lorsque Kaze eut expliqué les propriétés très particulières de son pancréas made in Chiba. « Je veux dire, tu peux pas les poursuivre ou quoi, pour faute professionnelle ?» Il s'appelait Bruce. Il ressemblait à la version sexe opposée de Kate jusqu'aux taches de rousseur. « Eh bien, dit Kaze, c'est des trucs qui arrivent, tu vois, comme les problèmes d'incompatibilité tissulaire et tout ça. » Mais le regard de Bruce était déjà voilé d'ennui. « La capacité d'attention d'un moustique, se dit Kaze, en regardant les yeux noisettes du garçon. » Leur chambre était plus exiguë que celle qu'il partageait avec Molly et située sur un autre niveau, plus proche de la surface. 5 immenses cibachromes de Tali Ishman était scotché sur la fenêtre du balcon, preuve d'une résidence prolongée dans les lieux. « Sont à mourir, non ?» demanda Kate en le voyant lorgner les diapos. « Je les ai prises moi-même à la pyramide SR, la dernière fois qu'on a descendu le puits. Elle était là, toute proche, dingue, et elle souriait, tranquille, tellement nature. Et pourtant, c'était vraiment dur, Lupus. » Le lendemain que cet héros du Christ-Roi avait flanqué l'ange à l'eau, tu te rappelles ? Ouais, fit Kaze, soudain mal à l'aise, lamentable affaire. Bon, intervint Bruce, au sujet de cette bêta que tu veux acheter. Le problème, c'est, est-ce que je peux la métaboliser ? Kaze haussa les sourcils. Tu sais quoi, dit le garçon ? Tu fais un essai. Si ton pancréas laisse passer, c'est aux frais de la maison. La première dose est gratuite. « J'ai déjà entendu ça quelque part, » dit Kaze, en prenant le derme bleu vif que Bruce lui tendait au-dessus du couvre-lit noir. « Kaze ?» Molly s'assit sur le lit en écartant d'un mouvement de tête les cheveux de ses lentilles. « Qui d'autre, mon chou ? Qu'est-ce qui t'a pris ?» Les miroirs le suivaient à travers la chambre. « Je ne sais plus comment dire, » fit-il en sortant de sa poche de chemise, une plaquette de derme bleu roulée serrée dans leur emballage de plastique. « Seigneur, » fit-elle, manquait plus que ça. « Tu pouvais pas mieux dire. Je te quitte des yeux 2 heures et tu trouves moyen de faire le mariole. » Elle hocha la tête. « J'espère que tu seras prêt pour notre grand dîner avec Armitage ce soir, dans ce fameux 20e siècle. Et puis, faut pas non plus qu'on rate le numéro de Rivera. » « Ouais, » fit Kaze en cambrant le dos, le sourire figé en un rictus d'extase. « Super !»« Mon vieux, je sais pas ce que c'est comme truc, mais si c'est quand même parvenu à passer, malgré le boulot de ces chirurgiens de Chiba, tu vas pas être beau à voir quand l'effet va se dissiper. « Salope, salope, salope !» dit-il en débouclant sa ceinture. « Ruine, désolation, toujours la même chanson. » Il ôta son pantalon, sa chemise, son slip. « Je trouve que tu devrais avoir assez de jugeote pour tirer parti de mon état anormal. » Il baissa les yeux. « Je veux dire, mate un peu cet état anormal. » Elle rit. « Ça va pas durer. »« Oh, mais que si !» dit-il en grimpant sur la mousse sable. « C'est bien là d'ailleurs ce qu'il y a de plus anormal. »